RCF.
Et en cette journée mondiale de la radio, comme tous les autres journées de la semaine, nous allons retrouver le 18-19 en région, animé ce soir par Alexis Claudretz.
Bonsoir à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver ce mardi pour un nouveau 18-19 en Champagne-Ardenne. Effectivement, jour de fête pour toutes les radios en France et à l'international, journée mondiale de la radio, comme vient de le dire Fabrice. Et pour ce bel événement, Jean-François Boulanger est avec nous. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Vous nous parlerez du 15e centenaire du baptême de Clovis, pas très original, épisode 6 cette fois.
Voilà, cette fois on arrive à l'affrontement, si je puis dire, entre l'Église catholique et puis les tenants d'un laïcisme intransigeant.
Mais la fin, ce n'est pas pour aujourd'hui, il y aura encore des choses à dire.
Oui, il y aura encore deux émissions après.
On ira tout doucement jusqu'aux vacances de février. Elle nous accompagne également ce soir, Mélissa Tavares, notre stagiaire à la rédaction. Vous la retrouverez notamment avec la page météo tout à l'heure. Mélissa, bonjour.
Bonjour.
Et puis il y a pas mal d'événements aujourd'hui, puisque vous le savez, ce mardi 13 février, on est à la veille du mercredi des cendres, mercredi 14 février, qui marquera l'entrée en carême. Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est mardi gras, le jour où l'on fait un petit peu plus la fête, où l'on mange un petit peu plus sucré, un petit peu plus salé, et où l'on mange un petit peu plus gras, comme son nom l'indique. Et c'est la tradition peut-être aussi de faire des crêpes parfois.
Les beignes.
Et alors vous, c'est quoi Jean-François chez vous?
Les beignets.
Les beignets,
qu'on appelle les beignes.
Eh bien, pourquoi pas. Voilà, ça c'est la tradition de Mardi Gras. Et puis, dans les nouvelles moins joyeuses que l'on vous disait déjà dès hier sur l'antenne de RCF France-Ardennes, c'est que l'on a bien évidemment une pensée pour la famille et les proches du père Nicaise Rousseau qui nous a quittés il y a quelques jours. Ses obsèques seront célébrées jeudi à 14h30 en l'église de Lanneville en Tournafuit. Bien évidemment, on ne manquera pas de rappeler encore une fois ce rendez-vous. Au programme ce soir, nous serons avec Jean Ivory pour parler de la journée mondiale de la radio, justement. Nous serons également avec le père Pascal Tindano dans le diocèse de Chalon pour évoquer l'entrée en carême demain à l'occasion du mercredi des cendres. On parlera vie politique et activité économique du côté d'Ardennes Métropole avec Patrick Faustier qui est vice-président d'Ardennes Métropole et conseiller municipal de la ville de Charleville-Mézières à chaque fois sur le dossier des questions économiques. Nous serons également avec Romain Bonhomme, un maire qui nous parle. Il est l'édile de Ben-Noroy dans le département de la Marne. Il est bientôt 18h13 ce soir et on commence par accueillir Jean-François Boulanger pour un nouvel épisode de Mémoire chrétienne. Jean-François, bonjour.
Bonjour.
Clovis face au laïcisme, c'est l'objet de votre chronique aujourd'hui. En célébrant le 15e centenaire du baptême de Clovis, l'Église entend réfléchir sur ce qu'est la conversion d'un individu qui reçoit le baptême à la suite d'une longue réflexion comparable au processus qui préside aujourd'hui à baptême d'adulte. Baptême d'un simple individu, le baptême de Clovis ne peut donc pas être le baptême d'une nation, et pourtant la célébration va faire l'objet d'un procès en laïcité venant de gauche. Jean-François, beaucoup d'éléments.
Et oui, effectivement, parce que vous vous souvenez peut-être, on l'avait dit dans des émissions précédentes, on craignait une récupération de l'extrême droite, et finalement c'est de gauche qu'est venue une mobilisation, tout au moins médiatique, autour, sinon carrément contre Clovis.
Pour le coup, ce n'était donc pas ce que l'on attendait.
Oui, parce que on pouvait avoir l'impression que les clivages politiques au sein de la société française avaient pour partie perdu les fondements religieux qui avaient été les leurs pendant très longtemps. Car depuis la Révolution française et la question du serment à la Constitution civile du clergé que la Révolution avait institué et avait voulu imposer au clergé, la carte de la pratique religieuse coïncidait assez largement avec celle du vote de droit à droite, pardon, et inversement. Et pour la gauche républicaine au XIXe siècle, le cléricalisme était l'ennemi, selon l'expression qu'avait utilisée Gambetta. Et la seule manière de mettre un terme à cette emprise réelle ou supposée sur la société française de l'Église avait été, pour les républicains, la mise en place d'une laïcité de plus en plus stricte et de plus en plus étendue. Cependant, cette carte électorale avait évolué dans les années 1970 et 1980, notamment l'ouest de la France, traditionnellement plus pratiquant que le reste du pays, était pour une bonne part passé à gauche avec la montée électorale en puissance du PS, une deuxième gauche, c'est l'expression qu'on utilisait à l'époque, politique et syndicale, d'origine chrétienne, y était apparue, et dans une autre région, donc en Franche-Comté, dans l'usine LIP, les militants CFDT, qui avaient organisé la reprise de la production et la vente des montres, étaient passés, quant à eux, par l'Action catholique ouvrière. Donc on pouvait penser que la question religieuse n'était plus un clivage aussi fondamental.
C'est ce que l'on aurait pu penser, effectivement. Cependant, la question va réapparaître à la faveur du 15e centenaire.
Voilà, et c'est ça la surprise, entre guillemets, hein. Parce que la surprise n'était pas totale, parce qu'il y avait déjà des signes annonciateurs. La question religieuse semblait devoir réapparaître, d'abord pour des raisons qui s'inscrivent dans le court terme événementiel. L'exemple typique, c'était la messe célébrée à Notre-Dame de Paris après la mort de François Mitterrand, qui avait suscité un malaise, hein, puisque c'était un président de la République qu'on enterrait. Il en était le même des propos que Jacques Chirac avait tenus lors de sa visite au pape en janvier 1996. Il avait alors affirmé, je cite, « La France veut être fidèle à son héritage chrétien, à sa vocation spirituelle et humaine. » Et donc on y avait vu, pour certains, une entorse à la laïcité. N'oublions pas que, par ailleurs, le voyage du pape prévoyait une étape en Vendée qui, ajoutée à la commémoration du baptême des Francs, pouvait donner une tonalité contre-révolutionnaire à la visite de Jean-Paul II. Il en était de même de la date choisie pour le passage à Reims, qui était le 22 septembre.
Était-ce cependant l'intérêt de la gauche de ressusciter ce vieux clivage, Jean-François Boulanger ?
On a l'impression que les événements que je viens d'évoquer, et qui peuvent bien sembler secondaires, viennent s'ajouter au désarroi qui touche la gauche depuis une bonne décennie, et que les défaites électorales de 1993 et 1995 ont amplifié. Ce qui est fondamentalement en jeu pour la gauche, c'est son identité propre. Est-ce que cette identité résulte de choix économiques et sociaux ? Mais depuis le tournant de la rigueur en 1983 et la débâcle du communisme en Europe, on en est moins certain que ce soit le clivage économique et social qui soit fondamental. Le clivage se trouve-t-il dans une morale politique qui récuserait le poids de l'argent ? Peut-être, mais les scandales qui ont jalonné la fin de la présidence de François Mitterrand ont fait perdre de son efficacité à ce critère de substitution. Reste donc le référent ultime, fondateur du clivage droite-gauche au XIXe siècle, la République et la laïcité. Et de nouveau, donc, le cléricalisme pourrait bien devenir l'ennemi et Clovis son symbole.
Toute la gauche est-elle touchée par ce phénomène ?
Non, parce que, effectivement, la direction du Parti socialiste reste discrète sur le sujet. Quant au Parti communiste, il organise même, à l'occasion de la Fête de l'Humanité, une exposition intitulée « Croyants, peuple et nation ». Et le catalogue de l'exposition comprend notamment un texte de Mgr Defoy, nouvel archevêque de Reims, qui est consacré à l'attitude de l'Église en 1789, et dans lequel Jean-Paul II est cité lorsqu'il affirme que les idées de liberté, d'égalité et de fraternité sont d'origine chrétienne.
Jean-François Boulanger, là où je ne comprends pas tout, c'est que si les deux grands partis de gauche ne s'investissent pas vraiment, voire pas du tout, dans la contestation du 15e centenaire, qui le fait alors ?
Alors, ce sont des groupes effectivement minoritaires qui vont militer contre la venue du pape en France. Il y a d'abord la mouvance radicale. Les radicaux, c'est une vieille gauche très ancienne, mais qui ne représente plus grand-chose, qui a été le pivot de la gauche jusqu'en 1936. Et depuis 1969, les radicaux cherchent des thèmes et des hommes susceptibles d'assurer le renouveau. Leur dernière tentative en date, en 1996, est celle de Bernard Tapie, qui d'ailleurs en 1994 avait rebaptisé le parti sous le nom de « Radical ». Et la venue de Jean-Paul II en France permet à cette formation de faire le lien avec sa culture politique d'origine. C'est un membre de « Radical » qui s'appelle Thierry Messant, qui, avec le réseau Voltaire, met en place un comité « Clovis n'est pas la France ». Et ce comité est à l'origine d'une manifestation nationale qui est organisée le 22 septembre à Paris, place de la République. Par ailleurs, à l'intérieur du PS, ce sont les minorités qui se mobilisent et poussent la direction du parti à intervenir sur ce sujet. Ce sont par exemple les poprénistes. Ce sont aussi les principaux dirigeants d'une tendance qui s'appelait la gauche socialiste. Ses principaux dirigeants, c'est Julien Drey et Jean-Luc Mélenchon, qui sont présents d'ailleurs à la manifestation du 22 septembre. Et puis, il faut aussi parler de ce qu'on pourra appeler la Mitterrandie, c'est-à-dire des gens qui étaient très proches de Mitterrand sans être eux-mêmes membres du PS, en tout cas des militants, qui ont été marginalisés par Lionel Jospin au nom du droit d'inventaire. Et donc, ce n'est pas une idéologie claire et nette de leur part, mais un simple vœu de fidélité à la mémoire d'un individu. On peut remarquer que les auteurs des deux pamphlets les plus violents et les plus médiatisés contre justement Clovis viennent de ce milieu de la Mitterrandie, c'est Pierre Berger et Dominique Jamais.
D'un mot très rapide, Jean-François Boulanger, l'extrême gauche dans tout ça?
Alors, à l'extrême gauche, c'est pareil. Il y a des gens qui ne s'intéressent pas vraiment au sujet, mais il y a aussi des gens qui s'y attestent beaucoup. Parmi les trotskistes, c'est la mouvance lambertiste qui est la plus engagée, notamment par le biais du mouvement de la libre pensée qui organise un meeting à Reims, donc dans la salle René Tys, le 22 septembre, alors que le pape est de l'autre côté du canal, donc à Saint-Remy. Le parti donc des trotskistes lambertistes, le parti des travailleurs, se veut l'ultime protecteur des valeurs républicaines que, selon lui, les grands partis de gauche oublieraient. Et puis, il y a des anarchistes qui, par exemple, à Reims, organisent un collectif de débaptisation et qui, le 22 de chaque mois, déploient devant la cathédrale une banderole sur laquelle figure l'inscription « Avortons la venue du pape ». Et là, la venue donc à Valmy le 22 septembre de plusieurs milliers de francs-maçons s'inscrit sans doute dans cette perspective. Mais toutes ces polémiques vont se dégonfler au soir du 23 septembre 1996 et nous verrons dans quelles circonstances lors des prochaines émissions, donc où nous verrons la réplique de l'Église à ces attaques.
Merci Jean-François Boulanger de continuer à nous emmener en immersion dans le 15e centenaire du baptême de Clovis. À très bientôt Jean-François.
À très bientôt.
Le 18-19 sur RCF.
Et à 18h22 sur RCF France Ardennes, RCF Cœur de Champagne, on prend une autre direction, celle de Ben-Noroy dans le département de la Marne, à la rencontre de son maire, Romain Bonhomme, qui est avec Jean-Pierre.
Romain Bonhomme, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai que vous étiez venu il y a quelques semaines, vous nous aviez présenté votre commune de Ben-Noroy. Vous faites combien d'habitants, monsieur le maire ?
1150 habitants, c'est une commune périurbaine rurale qui est située à peu près 17 km à l'est de Reims.
Alors, quand on dit Ben-Noroy, on s'interroge, Noroy, ça vient d'où ? Ben-Noroy, ça vient d'où ?
Alors, cette commune a un nom double pour la raison qui concerne aussi d'autres collègues et d'autres communes marnaises. Notre commune a été en plein dans la ligne de front pendant la Première Guerre mondiale, et qui fait que cette ligne de front a laissé des traces un peu indélébiles et qui a fait disparaître ce village de Noroy à l'issue de 1918. Donc ce village qui comptait à peu près 120 habitants avant la Première Guerre mondiale a été complètement radié des cartes.
Ça veut dire pour les auditrices et auditeurs des Ardennes qui nous écoutent, quand on entend Ben-Noroy, on pourrait croire qu'il y a deux communes qui existent à l'heure actuelle, comme ça existe dans beaucoup de communes de France, mais vous, Noroy n'existe pas en fait aujourd'hui.
Alors, géographiquement, le site existe toujours. La nature a repris ses droits après la Première Guerre mondiale et les vestiges qui restaient de ce village détruit réapparaissent petit à petit grâce à l'action de notre association Les Amis de Noroy, qui est une action patrimoniale qui vise à sauvegarder ce patrimoine et à continuer à faire vivre cette commune disparue.
Alors, monsieur le maire, on interroge souvent les élus locaux en reconnaissant le rôle essentiel du maire dans le domaine de la proximité. Et beaucoup se plaignent aujourd'hui sur le plan national, et donc forcément dans nos communes de notre région, du manque par exemple de commerce, du manque de services. Est-ce que vous avez été sensible à cette demande, monsieur le maire ?
Alors, sur des communes comme les nôtres, effectivement, c'est un enjeu majeur. On l'a vu notamment pendant la période de Covid, où il y avait quasiment plus de mobilité, plus personne n'avait accès à rien pendant ces quelques semaines à partir du mois de mars 2020. Donc on a effectivement cet effort d'essayer de proposer à nos habitants, au travers de quelques commerces ambulants, un marché hebdomadaire. Donc on a un marché hebdomadaire qui se déroule le vendredi à partir de 17h sur la place du village. Et puis, de manière un peu plus pérenne, on travaille du point de vue immobilier pour restaurer et recréer sur une friche industrielle, des bâtiments commerciaux et de services. Et on espère pouvoir lancer la première pierre de cet édifice à partir de l'année 2026-2027.
On sait que parfois dans certains villages, l'épicerie peut servir de relais postal. Parfois, il y en a qui ont plusieurs casquettes, comme on dit, pour permettre quand même de répondre à des services, à des besoins urgents de personnes qui n'ont pas toujours les moyens de se déplacer.
Oui, l'idée c'est de profiter de cette position un peu stratégique qu'on a au carrefour de plusieurs axes routiers pour développer et redévelopper un vrai projet de revitalisation de notre centre-bourg au travers, je vous le disais, d'une friche qui était un ancien garage automobile, donc qui est une friche avec quelques sujets notamment de pollution qu'il faut que l'on regarde et qu'on traite du point de vue de la dépollution et puis de la reconversion de ce site qui se trouve en entrée de village. Et puis ensuite, l'idée est de créer un bâtiment qui permettra d'attirer des investisseurs et d'attirer des entrepreneurs qui ont envie de se lancer dans le challenge de la du commerce de proximité au travers d'installations type restauration, brasserie et petites cellules commerciales qui seront à disposition des entrepreneurs qui vont.
Ce serait quand même de très grandes innovations. Et vous pouvez être aidé pour cela par la communauté de communes ou par d'autres collectivités locales. Ce n'est pas évident.
Alors, sur nos territoires, il est très, très compliqué d'attirer des investisseurs, surtout dans le contexte économique actuel. Donc l'idée est effectivement de partir sur un portage public de cette opération qui est la seule possibilité qu'on a de partir sur ce type de projet d'envergure et qui nécessite des fonds publics pour amorcer l'intérêt des investisseurs sur ce site. Donc on a la chance de pouvoir travailler avec le Grand Reims et puis SACEM qui s'appelle Agencia, et donc on travaille main dans la main avec eux pour construire un projet, je serais tenté de dire, moderne et qui permet d'attirer l'œil et d'intéresser les investisseurs sur notre territoire.
Il faut dire, Romain Bonhomme, qu'il y a quelques semaines, vous aviez mis l'accent aussi sur le cadre de vie, sur l'accueil des habitants. Et c'est vrai que vous travaillez sans doute aussi. On arrive au printemps, tout progressivement, on est encore en période qui s'y prépare, sur l'embellissement du village, sur des initiatives locales que vous pourriez prendre pour rendre Ben-le-Roi encore plus attractive, plus agréable.
La question d'attractivité, elle passe forcément par le cadre de vie. On a la chance d'avoir une collectivité, une communauté qui vit plutôt bien, puisqu'on a un tissu associatif qui est extraordinaire. Et j'en profite encore une fois pour remercier l'ensemble des présidents des associations. Sur notre commune de 1150 habitants, c'est 15 associations socio-culturelles et sportives qui représentent à peu près une cinquantaine d'activités par an. Et c'est ce qui rend aussi cet intérêt à vivre chez nous, parce qu'on voit qu'à chaque événement, encore ce week-end, on avait un concert partagé avec deux fanfares, donc la fanfare de notre village et celle de Bourgogne-Fresnes. Et tout de suite, effectivement, on a un intérêt, on a des gens qui viennent se rencontrer, discuter, échanger en proximité.
Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dans notre société qui cherchent ce contact, car souvent en ville, ils sont un petit peu isolés. Est-ce que vous avez, ces dernières années, mais c'était pas facile à évaluer, l'arrivée de nouvelles personnes, vous en aviez déjà parlé, qui viendraient s'établir à Ben-le-Roi? C'est pas toujours facile parce qu'il faut des logements disponibles ou alors il faut construire, mais c'est peut-être pas évident.
Non, ce sont des projets, encore une fois, qui se construisent sur le long terme. On a la chance d'avoir eu deux opérations immobilières d'importance sur les cinq dernières années, de 50 logements supplémentaires sur la commune. Donc on a la chance sur nos territoires d'avoir très peu de vacances sur l'immobilier parce qu'on a une forte demande. Donc tout l'intérêt est de pouvoir, encore une fois, créer des conditions d'accueil, mais aussi il faut accompagner les équipements qui entourent l'arrivée de nouvelles populations. Je pense notamment à nos services de proximité, aux écoles, à la question des commerces. Donc tout ça est lié et encore une fois, il faut pas uniquement viser des grosses opérations de logement sans forcément prendre le temps d'accompagner et de prendre les bonnes décisions sur les autres aspects que sont les équipements de proximité.
On arrive presque au terme de notre émission, ça passe très très vite avec vous, Romain Bonhomme. Si vous aviez une ou deux choses à ajouter pour terminer, pour clore, en disant quand même une note d'espérance, on voit bien qu'à Ben-le-Roi, on se bouge, il se passe des choses, les gens sont heureux de se retrouver. Alors, monsieur le maire, je vous laisse conclure finalement, avant de nous retrouver pour une autre émission, parce que nous avons promis de nous revoir de temps en temps sur cette antenne.
Bon, c'est toujours un plaisir de venir vous voir, Jean-Pierre Benoît. Je dirais simplement qu'effectivement, sur les territoires, il y a une appétence des habitants, des citoyens à la chose publique, contrairement à ce que laisse entendre un certain nombre de commentaires sur la vie politique nationale, et que en proximité, à partir du moment où on arrive à fédérer et à réunir les pépites qu'on a sur notre territoire, parce qu'encore une fois, hein, le rôle du maire, c'est certes beaucoup de choses, mais c'est surtout un catalyseur des énergies qui sont sur le territoire.
Une belle conclusion en effet, Romain Bonhomme. Avec vous, nous nous retrouverons sans doute dans quelques semaines, ou même si l'actualité l'exige avant. Vous êtes, rappelons-le, le maire de Bennes-Noroy et vous êtes bien sûr au conseil du Grand Reims. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt sur RCF.
Merci à vous.
Merci Jean-Pierre, on vous retrouve en deuxième partie d'émission avec Patrick Faustier, vice-président d'Ardennes Métropole en charge des questions économiques à 18h30, c'est l'heure du journal régional. Les titres de ce mardi 13 février, jour de Mardi Gras, les producteurs de lait étaient mobilisés à Paris aujourd'hui, parmi eux l'Ardennais Adrien Lefebvre, président de l'association des producteurs de lait indépendants. Il est en direct avec nous. À Nuisement-sur-Colle, près de Châlons-en-Champagne, les élèves de l'équipe éducative ne peuvent plus accéder à l'école de la Vallée de la Colle depuis une semaine par mesure de précaution. Explication.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Nouvelle mobilisation des agriculteurs. Aujourd'hui, Gabriel Attal a reçu ce mardi les principaux syndicats d'agriculteurs pour se pencher sur la mise en œuvre des mesures qu'il a annoncées il y a une dizaine de jours. Dans le même temps, les producteurs de lait manifestaient à Paris près de l'Assemblée nationale. Adrien Lefebvre, éleveur laitier dans les Ardennes et président de l'appli l'Association des producteurs de lait indépendants, était des leurs. Il est en ligne avec nous. Adrien Lefebvre, bonjour. Quelles sont vos revendications aujourd'hui?
Bonjour Alexis. Alors nos revendications, c'était simple, hein, c'était de mettre un petit peu un coup de pression par rapport aux négociations qui sont en cours entre syndicats et gouvernement. Bon, nous, clairement, par rapport aux annonces qui ont été faites depuis quelques temps, c'est pas des annonces qui sont à la hauteur. On ne parle pas de prix, on ne parle pas de revenus. Donc clairement, on a battu le pavé à Paris avec une centaine de mes collègues et on a eu une écoute, que ce soit des citoyens, des députés et des journalistes, qui a été extraordinaire aujourd'hui. On n'est encore pas sur le chemin du retour, on fait un petit peu le tour des plateaux télé là ce soir, mais le but c'est de montrer qu'un autre avenir est possible pour les agriculteurs et en particulier les éleveurs laitiers. Et on était force de proposition dans une manifestation pacifique aujourd'hui.
D'ailleurs, pour ne rien cacher à nos auditeurs, on a encore quelques questions à vous poser. Vous êtes actuellement dans les locaux de BFM TV et en tant que président de l'appli, vous nous faites l'amitié de répondre à notre interview en local et vous avez envoyé un collègue de l'appli sur le plateau. On vous remercie pour cette fidélité, Adrien Lefebvre. Quelles sont les propositions, vous, en tant que producteur laitier, que vous avez soumises au gouvernement? Parce qu'on imagine que des pistes de solutions, vous pouvez en proposer.
Alors une solution assez simple, c'est celle du concept économique de notre lait équitable qui en France s'appelle Faire France. Il faut savoir qu'on a travaillé depuis maintenant plus de 10 ans à mettre en place des outils économiques comme celui-ci à travers l'Europe, parce que le problème est quand même européen et la solution ne peut pas être française et c'est pas seulement Gabriel Attal qui peut la détenir. On a un vrai problème de prix aujourd'hui et il y a les pays, enfin il y a des mobilisations dans 14 pays européens. Et donc on a besoin absolument de concepts qui fonctionnent, parce que clairement, tout ce qui a été mis en place de façon politique ne fonctionne pas. Nous, on demande de ce côté-là une forme de régulation pour faire coller la production à la consommation, ce qui pourra maintenir des prix à peu près normaux, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de chute au niveau des cours des matières premières. Mais de l'autre côté, il y a des concepts économiques qui fonctionnent. Le consommateur a un pouvoir bien plus important qu'il ne pourrait le croire avec sa carte bancaire, d'ailleurs beaucoup plus qu'avec sa carte électorale, et on se rend compte que ces solutions-là, elles sont simples. Faire France en est un exemple, avec une vache tricolore et une simple brique de lait, on peut bien rémunérer les producteurs, on le prouve aujourd'hui, et on a fait aussi la demande aux députés tout à l'heure que ce concept soit reconnu d'utilité publique pour qu'il y ait un plus grand nombre de producteurs qui le connaissent et qui, derrière, qui nous rejoignent, tout simplement. On est une association. Hein.
Vous nous avez dit tout à l'heure, Adrien Lefebvre, que vous avez été écouté aujourd'hui. Est-ce que vous avez été entendu? Est-ce qu'il y a des choses concrètes qui vont se mettre en place, peut-être dès ce soir ou dès demain matin?
Alors, dès demain matin, je ne sais pas. Là, on attend vers 20h le communiqué de Matignon. Moi, ce que je vois, toujours est-il qu'aujourd'hui, Matignon, comme le ministre de l'Agriculture, ne reçoit que les syndicats majoritaires. Nous, on attend vraiment d'être reçu aussi en tant qu'indépendant. Moi, je suis président des producteurs de lait indépendants. Dans les manifestations depuis 3 semaines, j'ai vu énormément d'indépendants se déplacer, sortir de leur ferme. Et clairement, quand les indépendants sortent, quand les agriculteurs non syndiqués, sans étiquette, sortent de chez eux, c'est parce qu'il y a un vrai mal-être, il y a un réel problème. Donc là, nous, on a une proposition qui est dans le cadre de la production laitière, mais qu'on pourrait très facilement dupliquer dans les autres productions, dans les autres filières. Et c'est ça qu'on veut mettre en avant, et c'est de ça qu'on veut parler au ministre et au Premier ministre, voire même à Emmanuel Macron dans 10 jours au Salon de l'Agriculture. Mais pour ça, c'est pas dans le détour d'une allée qu'on peut rentrer dans les détails. Il faut vraiment être reçu, et c'est notre demande ce soir, c'est d'être reçu quand même par le gouvernement qui nous tourne le dos depuis 3 ans. On les a sollicités, on n'a jamais été reçus.
Le message est passé ce soir sur les antennes de RCF en région. Merci Adrien Lefebvre, et on vous laisse poursuivre la tournée des médias. On ne manquera pas de vous avoir en ligne prochainement sur nos antennes. À très bientôt Adrien Lefebvre.
Merci Alexis.
Rappelons qu'Adrien Lefebvre est le président de l'appli l'Association des producteurs de lait indépendants, et lui-même éleveur laitier, producteur laitier dans le département des Ardennes. Depuis le 6 février dernier, l'école de la Vallée de la Colle à Nuisement-sur-Colle près de Châlons-en-Champagne ne peut plus recevoir les élèves et l'équipe éducative non plus. Julien Valentin, président de la communauté de la Moivre à la Colle, nous explique les raisons de cette fermeture préventive.
Suite à la découverte de 2 fenêtres qui ont eu les vitres brisées et de fissures qui sont apparues, semble-t-il, dans le week-end dernier, la commission de sécurité est passée pour réévaluer les choses et solliciter la fermeture de l'école de façon temporaire, le temps qu'il y ait une évaluation technique plus précise.
Très rapidement, une réorganisation a été mise en place avec l'inspection de l'éducation nationale afin que l'enseignement puisse se poursuivre.
Premièrement, nous avons eu un accueil temporaire dans la salle des fêtes de la commune de Nuisement-sur-Colle qui nous a mis à disposition cette salle pour accueillir les enfants. Et donc nous avons sollicité le conseil régional pour organiser le transport de la totalité des élèves. Celui-ci a répondu favorablement et a mis en place 2 bus supplémentaires, dont un de 72 places, de façon à ce qu'on puisse transporter les 146 élèves de l'école de la vallée de la Colle vers ces 2 écoles-là, de Méry-sur-Marne et de Vésigneul-sur-Marne.
Des propos recueillis par Christopher Fausten de RCF Cœur de Champagne, les quelques 150 élèves ne réintégreront pas leur école avant le mois de juillet. Selon les 2 experts en études structurelles qui sont passées jeudi dernier, l'école est réparable, mais à ce stade, il est impossible de savoir la durée des travaux. La conclusion détaillée des experts est en attente. Sport, football, en match décalé de la 24e journée de Ligue 2 hier soir, 3 a subi un sévère revers, 5-0 sur la pelouse de Saint-Étienne. Les Stacks se classent 16e avec 27 points et comptent 3 unités d'avance sur le premier relégable Dunkerque. Avant de refermer ce journal, place à la météo avec notre stagiaire Mélissa Tavares. Je n'invente rien, Mélissa, vous connaissez la question. Quelles sont les tendances pour ce mercredi en Champagne-Ardenne?
Demain, le temps ne sera pas au meilleur de sa forme. Au matin, dans la quasi-totalité des communes de la Champagne-Ardenne, de la pluie tombera dans les Ardennes comme à Vouziers, dans la Marne à Vitry-François, dans l'Aube à Troyes et dans la Haute-Marne à Chaumont. Les thermomètres afficheront au minimum 9 degrés et au maximum 10 degrés. L'après-midi, dans l'Aube et la Haute-Marne, la pluie partira vers d'autres horizons pour ne laisser que des nuages ténébreux dans le ciel. Ce sera seulement dans les Ardennes et dans la Marne où la pluie restera dans l'ensemble des villes. Malgré ce temps morose arrosé par la pluie, nous aurons de bonnes températures où le mercure grimpera au maximum jusqu'à 14 degrés. Demain, nous fêterons les Valentins, mais pas seulement, nous fêterons aussi la Saint-Valentin pour tous ceux qui ont pu trouver leur moitié.
Eh bien voilà, une très bonne fête à tous les amoureux, les amoureuses et à tous les Valentins. Ainsi se referme ce journal, le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Châlons, Charleville-Mézières.
Ce mercredi 14 février est aussi mercredi des cendres qui marquera donc l'entrée en carême. Le père Pascal Tindano, prêtre à l'espace missionnaire Brie au diocèse de Châlons, nous présente l'origine des cendres.
L'utilisation des cendres remonte à l'Ancien et au Nouveau Testament déjà. Dans la Bible, voilà, les cendres expriment la tristesse de l'homme devant, par exemple, le malheur. Nous nous souvenons de l'histoire de Job. Il dit « Me voici pareil à la poussière et à la cendre ». Voilà, il crie donc son malheur après avoir tout perdu. Job chapitre 30, verset 9. Tandis que Tamar, une fille de David, répandit la cendre sur sa tête après avoir été violée. 2 Samuel 13, 19. Donc se couvrir de cendre ou encore se rouler dans la cendre, c'est donc logiquement devenu aussi le symbole du deuil. Voilà, par exemple, Jérémie dit « Ô fille de mon peuple, revêt-toi de sac et roule-toi dans la cendre. Prends le deuil. » Voilà, il demande cela à Jérusalem. Ensuite, dans l'Ancien Testament toujours, celui qui se couvrait de cendre reconnaissait ainsi son péché. Il regrettait ce péché et avait confiance dans le pardon de Dieu. Exemple, l'attitude du roi de Ninive, qui, à l'appel à la conversion de Jonas, se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Jonas 3, 6. Dans le Nouveau Testament, nous pouvons citer juste le passage de Saint-Luc. « Malheureuse es-tu, Chorazin, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient converties, vêtues de sacs et assises dans la cendre. » Voilà qui nous éclaire sur ce que représentaient déjà les cendres dans l'Ancien et le Nouveau Testament.
Le père Pascal Tindano nous explique l'utilisation des cendres pour nous aujourd'hui.
Fondamentalement, la signification des cendres est la même pour nous chrétiens aujourd'hui que pour les gens de l'Ancien et du Nouveau Testament. Mais cette signification a été tout de même plus approfondie. Tout comme dans l'Ancien et le Nouveau Testament, les cendres sont pour nous chrétiens aujourd'hui symbole de péché et de fragilité humaine. S'en recouvrir permet aux chrétiens de reconnaître leurs fautes et d'être pardonnés. La cendre symbolise ainsi le néant de l'homme devant l'absolue transcendance du Dieu qui se révèle à Moïse à travers un buisson ardent qui, lui, ne se consumait pas. Confère Exode 3, 2. Alors donc, l'imposition des cendres pour nous, ça nous fait commencer le carême. Quand nous imposons, on appelle ça imposition des cendres. Cette imposition des cendres se fait donc le mercredi, quand on dit mercredi des cendres justement, qui ouvre le temps des 40 jours de carême. 40 jours. On utilise la cendre produite, normalement on utilise la cendre produite par la combustion des rameaux de l'année passée. Avec ces cendres, le prêtre forme une croix sur notre front et nous dit cette parole de Jésus. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Marc chapitre 1, verset 15. La cendre rappelle ainsi, comme nous l'avons dit plus haut, notre état d'homme fragile. Un jour, nous mourrons, notre corps se décomposera et deviendra de la poussière, de la cendre. C'est pourquoi il y a une deuxième formule que le prêtre peut employer en disant « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Genèse, cela fait allusion à Genèse 3, 19. Il est donc bon de souligner que la cendre est aussi le fruit du feu. Ce feu, pour nous, c'est l'amour de Dieu qui est si puissant qu'il réduit en cendres nos péchés. Voilà une autre signification des cendres. En recevant ces cendres sur notre front, nous redisons toute notre foi. Oui, nous redisons que nous mourrons un jour, mais Dieu nous ressuscitera avec Jésus-Christ pour la vie éternelle. Si bien qu'on peut dire que les cendres annoncent déjà Pâques.
Le père Pascal Tindano au micro de notre correspondant Gérard Goriste. Les horaires des messes du mercredi des cendres près de vous sur les sites de vos diocèses, le diocèse de Chalon, le diocèse de Reims.
Le 18-19 sur RCF.
Et ce mardi soir, on parle économie dans le département des Ardennes avec Patrick Faustier, vice-président d'Ardennes Métropole, en charge des questions économiques qui s'entretient avec Jean-Pierre.
Patrick Faustier, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous. Nous avons décidé de vous retrouver régulièrement sur l'antenne pour évoquer les questions économiques, en particulier d'Ardennes Métropole, de la région de Charleville-Mézières et Sedan, en mettant des points importants sur des aspects positifs dans ce département qui essaye effectivement de progresser dans ce domaine. Tout récemment, c'était je crois le 2 février dernier, en eu lieu la remise des trophées des entreprises Ardennes Métropole. Qu'est-ce qui vous a frappé dans cette remise des prix? Et sur quel prix vous voudriez peut-être mettre l'accent?
Le trophée des entreprises, c'est un dispositif que nous avons lancé avec Boris Ravignon en 2016. Donc nous sommes à la 8e édition et chaque année, nous nous efforçons de récompenser des entreprises qui, dans différents domaines, ont fait briller le territoire d'Ardennes Métropole, dans l'artisanat, dans le commerce, le tourisme, l'industrie, les services. Et puis on a un prix également un peu spécifique sur les entreprises qui sont axées sur l'environnement. Eh bien, moi, ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est l'entreprise qui a reçu trophée d'or de l'industrie et également notre coup de cœur, puisque chaque année on désigne un coup de cœur du jury, c'est l'entreprise Polymoulage qui est installée dans la zone de Bazeille, à proximité de Sedan, que nous avons voulu mettre en avant. Alors pourquoi ? Parce que cette entreprise a été victime d'un très grave incendie il y a exactement un an. Elle a été totalement détruite. C'est une entreprise Polymoulage qui existe depuis une trentaine d'années, qui travaille sur des métiers, comme son nom l'indique, de fabrication de moules en plastique, une entreprise qui exporte, une entreprise qui travaille dans toute la France et toute l'Europe. Et cette entreprise est assez exemplaire, elle a une dizaine de salariés, elle a deux dirigeants, M. et Mme Giannini, qui se battent vraiment bec et ongles pour défendre et faire progresser cette entreprise. Et malheureusement, elle avait eu cet incendie, elle a réussi en un an, ce qui est un véritable exploit, à reconstruire ses bâtiments et à se réinstaller. Elle est repartie et voilà pourquoi elle a été le coup de cœur de cette année.
Justement, ce matin, on voulait vous demander, parce que vous nous aviez dit ça il y a quelques semaines, que Ardennes Métropole allait essayer de travailler pour agir sur tous ces bâtiments commerciaux qui n'ouvrent plus, avec des façades qui n'existent plus, un bâti commercial obsolète. Est-ce que vous avez déjà des tout premiers résultats, des toutes premières lueurs dans ce domaine ?
Effectivement, nous avions parlé donc de la création d'une société publique locale, Mercure Ardennes, qu'elle Ardennes Métropole et quatre communes d'Ardennes Métropole ont confié la mission de travailler sur notre bâti commercial ancien. Effectivement, nous allons inaugurer à la fin de ce mois ou au début du mois prochain le premier local rénové. Il sera situé rue Monge, dans le quartier de Mézières, à Charleville-Mézières. C'est une boutique qui fait 35-40 mètres carrés et qui va accueillir Seconde Âme. Seconde Âme, c'est une entreprise qui existe déjà sur l'Internet, qui commercialise des objets de seconde main après rénovation et remise en état, des objets de toutes sortes, et elle va trouver là, Seconde Âme, un petit écrin où elle va pouvoir exercer son activité, on le souhaite, participer à la vie économique de ce quartier. C'est évidemment le premier dossier, ce ne sera pas le seul, on a une boutique qui est en cours de rénovation sur le bâti sedanais, et puis bien sûr, nous allons intervenir dans l'année à Vrigne-aux-Bois et à Nouzonville, comme nous le souhaitons.
Il faut dire, par exemple, dans cette société Deuxième Âme, c'est l'occasion de relayer la présence, et vous l'avez très bien dit, Patrick Faustier, sur Internet, d'avoir un lieu quand même où on peut dire aux gens, tenez, voyez, on existe, on est représenté, il y a du visuel, il y a une réalité.
Absolument, mais beaucoup d'entreprises, d'ailleurs, ce qu'on appelait dans le jargon technique, pardon pour l'anglicisme, mais des pure players, ont tendance maintenant à venir et à créer des boutiques effectivement physiques pour permettre aux consommateurs de venir leur rendre visite et effectivement d'une certaine façon matérialiser l'existence de l'entreprise. Pour nous, c'est extrêmement important parce que c'est une boutique qui était abandonnée depuis au moins 5 ans avec un coût de remise en état qui faisait fuir les candidats locataires potentiels. Et là, on la remet sur le marché et on espère bien sûr avoir un effet d'entraînement sur les boutiques voisines.
Et à travers cette image, Patrick Faustier, il faut bien comprendre, et vous nous le faites comprendre avec nous aujourd'hui ce matin, que c'est l'image même du commerce qui est en train de changer, c'est-à-dire que les commerces qui vont être implantés, les vitrines, vont être aussi plus en harmonie avec la société économique d'aujourd'hui et même de demain. On doit aussi évoluer pour que ces commerces existent, hein, c'est vrai aussi.
Oui, bien sûr. J'ai coutume de dire que le commerce évolue en permanence. Les évolutions sont sans doute plus rapides aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 30 ou 40 ans, mais elles ont toujours existé. Et c'est vrai qu'on est aujourd'hui sur un tissu économique qui évolue considérablement. L'Internet, les grandes surfaces, etc. Tout ça fait bouger beaucoup le tissu économique. Il faut que notre tissu s'adapte, autrement il va disparaître.
Pour terminer, troisième coup de projecteur avec vous aujourd'hui, Patrick Faustier, c'est une opération qui s'appelle « Ça ne fonctionnera jamais ici ». Alors là, c'était un peu une provocation. « Ça ne fonctionnera jamais ici », mais vous voulez prouver, vous, que ça fonctionne.
Absolument. Effectivement, c'est quelque chose qu'on entend souvent à propos des Ardennes et on a envie de casser ça. Et donc, avec notre pépinière d'entreprise, directrice Céline Geoffroy, on a monté cette opération avec des grands témoins, des gens qui, justement, ont réussi à faire fonctionner des choses très très bien dans les Ardennes. C'est le château Fortselan, c'est une entreprise comme Amada, une autre comme Petit-Fils, un chocolatier comme Paul Bouchex. On leur a demandé de venir témoigner de leur réussite, du fait que, ben, au contraire, on peut parfaitement réussir ici. Et puis, on va rassembler beaucoup de témoins autour de ça, de chefs d'entreprise. Et on espère, bien sûr, que et vous serez nombreux, tous ceux qui nous écoutent, à venir. C'est le 15 février à 18h30 à la pépinière d'entreprise. Et pour s'inscrire, il suffit tout simplement d'aller sur le site de la pépinière. Voilà.
C'est donc après-demain, jeudi 15 février, que vous donnez rendez-vous. À quelle heure, Patrick Faustier, vous l'avez rappelé?
Alors, 18h30 à la pépinière d'entreprise, 8 rue de l'Artisanat à Charleville-Mézières.
8 rue de l'Artisanat à Charleville-Mézières. Alors, il faut rappeler aussi que toutes ces réalisations, tous ces progrès se font dans un contexte de remontée lente, mais de remontée qui se manifeste de la démographie. Car c'est vrai que l'activité commerciale dépend de cette démographie. Charleville-Mézières est en train de remonter progressivement la cour parce qu'elle avait fortement descendu ces 10 dernières années.
C'est parfaitement exact, on avait perdu beaucoup d'habitants, on est aujourd'hui en stabilisation et même en montée légère. Des communes comme Sedan sont en train de remonter de façon assez notable. Je pense que nous voyons enfin un petit peu le bout du tunnel dans ce domaine, et les créations d'emplois sur le secteur d'Ardennes Métropole, qui sont assez fortes, sont un des éléments qui nous permettent, je pense, d'inverser la tendance.
Merci Patrick Faustier, on se retrouve dans quelques semaines, le mois prochain. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Au revoir.
À Reims,
Châlons, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Jour de fête, évidemment, cette journée mondiale de la radio Zoom sur l'histoire et le développement de la radio avec Jean Ivory, secrétaire général du comité territorial de l'audiovisuel de l'ARCOM à Nancy, qui est en ligne avec Christopher.
Jean-Yves Horry, bonjour.
Bonjour.
Avant d'évoquer avec vous l'évolution de la radio, notamment sur notre territoire Champagne-Ardennes, pouvez-vous dans un premier temps nous présenter l'histoire de ce média ?
Alors c'est un média qui commence à avoir une certaine pérennité, on va oui. dire, puisque la première émission de radio en France, destinée au public en tout cas, s'est déroulée le 24 décembre 1921.
D'accord.
Quelques années plus tard, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, on avait un mélange de quelques radios publiques. On peut citer Radio Tour Eiffel, Radio Paris, qui laissera un mauvais souvenir en raison de sa compromission sous l'occupation, Radio PTT, qui avait un format généraliste, et Paris Mondial, qui émettait en ondes courtes. Parallèlement, il y avait 3 radios privées. Des initiatives ont fleuri également en province. Néanmoins, je n'ai trouvé aucun exemple sur la région champenoise.
Okay.
On peut toutefois mentionner Radio Luxembourg, en voisine, si on peut dire, frontalière de la région, qui a fait ses débuts en 1933. Radio Luxembourg est une des radios que l'on désignait sous le terme de radio périphérique, auquel on peut ajouter Radio Andorre, créée en 1939. Quant à RMC, elle fut créée en 1943.
Jean-Yves Horry, qu'est devenue la radio après la guerre ?
Après la guerre, l'ordonnance du 23 mars 1945 établit le monopole d'État sur les stations de radio. La radio-télévision française, c'est-à-dire on ajoute le mot télévision, donc est créée en 1949 en remplacement de la radio-diffusion française, tandis que le premier journal télévisé apparaît un 29 juin de cette année 1949. La maison de la radio sera inaugurée en 1963. L'office de la radio-diffusion française, la fameuse ORTF, succède à la RTF en 1964, avant de faire l'objet d'une dissolution en 1974 pour laisser place à 7 sociétés distinctes. Le ministère de l'Information, créé en 1938 sous le nom de ministère de la Propagande, sera supprimé en 1968, en tant que ministère en tout cas, et ne sera pas reconduit par le président Pompidou en 1969.
D'accord.
L'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981 libéralise le régime de la diffusion radio. L'évolution de ce régime va s'accompagner de la création d'une instance destinée à couper le cordon ombilical structurel qui existait auparavant entre les diffuseurs et le pouvoir exécutif.
Jean-Yves Horry, secrétaire général du comité territorial de l'audiovisuel de l'ARCOM à Nancy, avec nous aujourd'hui sur RCF. Le paysage radio est l'un des plus riches d'Europe, avec un total de plus de 700 opérateurs radio privés qui se partagent environ 1400 fréquences. Jean-Yves Horry, qu'en est-il de la région Grand Est ?
Alors, dans le Grand Est, on dénombre à ce jour, pour être exact, 586 fréquences. Oui. Qui sont partagés par 104 opérateurs. Par opérateur, j'entends des structures, des personnes morales qui sont soit des associations, soit des sociétés, des SAS, des SARL, etc. Nous parlerons un peu plus tard de la technologie DAB+, je ne parle là que des fréquences FM.
Oui, d'accord.
Les radios, dans le jargon administratif, en tout cas, se subdivisent en 5 catégories distinctes, qu'elles ont ou non une vocation commerciale et selon leur format. Une radio peut en effet proposer un format musical, un format généraliste ou confessionnel ou autre, économique par exemple.
D'accord.
Ces radios privées s'ajoutent naturellement aux radios de services publics bien connus que sont France Inter, Info, Culture, Musique et France Bleu. Un panorama de la radio serait incomplet sans mentionner évidemment la révolution technologique due au développement du numérique.
Oui, bien sûr.
À la fois sur le plan hertzien et sur Internet. Concernant l'aspect hertzien, je veux parler de ce que l'on a commencé par appeler la radio numérique terrestre, que l'on appelait au tout début RNT.
Et rapidement appelé DAB+.
Exactement, qui signifie traduction Digital Audio Broadcasting.
D'accord.
En français, diffusion audio numérique. Le plus correspondant à une évolution de la norme mondiale de diffusion de la radio numérique terrestre. Ce mode de diffusion complète la diffusion FM, dont la bande de fréquence était devenue de plus en plus saturée au fil du temps, évidemment. Le DAB+ repose sur la diffusion des ondes hertziennes, en numérique donc, contrairement à la radio numérique, accessible via Internet, qui, elle, propose des flux audio et des podcasts.
Qu'en est-il du DAB+ dans notre région Grand Est et notamment sur notre territoire Champagne-Ardenne, Jean-Yves Horry ?
Alors, dans le Grand Est, on dénombre à ce jour 162 services radio pour 78 opérateurs. Le DAB est désormais disponible sur la Champagne-Ardenne depuis le début de l'année 2023. Sur une ville comme Reims, par exemple, on peut désormais entendre à la fois les 13 services autorisés spécifiquement sur ce qu'on appelle l'allotissement Reims local, qui se distingue de l'allotissement Reims étendu, qui correspond, lui, à l'ensemble de la région champenoise et qui comporte 13 autres services.
D'accord.
Soit un total de 26 services spécifiques à la zone champenoise et rémoise. À ces 26 services, bon, parfois 25, parce qu'il y a parfois des opérateurs qui partent, qui annulent leur autorisation, on va dire 26, s'ajouteront progressivement 26 autres services diffusés également en DAB+, mais sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Avant de nous quitter, Jean-Yves Horry, on parle de la FM, on parle de podcast, de web radio, du DAB+. Quel avenir, pour résumer, de notre média, qui est la radio ?
Contrairement à la TNT pour la télévision, la technologie DAB+ présente l'avantage de pouvoir coexister avec le mode de diffusion traditionnel, entre guillemets, de la radio, à savoir la bande FM. La radio numérique terrestre peut ainsi fonctionner de pair avec la diffusion FM, là où la TNT avait remplacé très rapidement la diffusion analogique de la télévision en France. La question du coût financier poussera vraisemblablement à accélérer un basculement vers le tout DAB+. Il n'est toutefois pas exclu que la FM soit préservée pour certains opérateurs pour lesquels, pour une raison ou pour une autre, ce basculement serait impossible, pour des raisons techniques notamment.
Oui.
Pour les zones très isolées où le DAB ne serait pas la meilleure solution. L'avenir nous le dira. L'avenir de la radio peut être vu avec un relatif optimisme. Certes, les habitudes d'écoute des jeunes générations les éloignent de cet outil d'information, mais il est remarquable que la radio, selon les sondages, se situe en tête des médias.
Oui.
Pour ce qui concerne la crédibilité des informations qu'on y délivre par rapport à l'ensemble des supports disponibles. J'ajoute, pour finir, que le site de l'ARCOM comporte une carte interactive permettant de connaître la liste des programmes reçus dans la commune où l'on réside. Il suffit d'aller sur la page Ma Radio DAB+, c'est un outil vraiment très pratique.
Longue vie à ce beau média, la radio, à travers ses différents moyens d'écoute. Merci Jean-Yves Houry, secrétaire général du comité territorial de l'audiovisuel de l'ARCOM à Nancy.
Merci et bonne journée.
Et ça ne vous a pas échappé que le DAB+ est désormais disponible sur la Champagne-Ardenne depuis le début d'année 2023. Vous nous écoutez peut-être sur RCF Champagne-Ardenne en DAB+. À tous, une très bonne soirée et une très bonne entrée en carême. C'est demain, mercredi 14 février, mercredi des cendres. On aura un 18-19, on va dire spécial, en tout cas ancré autour du carême. Une très bonne soirée. Tout de suite, l'information nationale.